acclamer le roi, tu l'acclames.
Alléluia. Jésus règne. Satan n'a plus de pouvoir. Est-ce que tu peux le dire encore très fort? Jésus règne. Satan n'a plus de pouvoir. Maintenant, tu vas le dire autrement. Jésus règne dans ma vie. Satan n'a plus de pouvoir. Jésus règne dans ma vie. Satan n'a plus de pouvoir. Dis merci au Seigneur pour ce jour qu'il te donne. Pour contempler encore sa gloire et son règne qui n'a point de fin. Est un règne éternel. Et le Dieu qui nous a appelés à jouir de la liberté ne voudrait pas que nous soyons dans la confusion. C'est pourquoi ce soir dit au Seigneur ce que je n'ai pas saisi jusqu'ici. Saint-Esprit, révèle-le-moi. Révèle-le-moi en cette soirée. S'il y a des aspects que je n'ai pas pu comprendre, donne-moi de les saisir maintenant, en cette soirée. À jamais tu seras l'agneau sur le trône de notre vie. Ô Jésus, tu as payé le prix suffisant pour régner. Nous refusons donc tout assujettissement de notre corps, de notre âme, de notre esprit à toute autre divinité. Nous t'en prions, Père, que ton Saint-Esprit éclaire pour nous ta parole. Que ton Saint-Esprit, à travers les prises de parole ce soir, puisse parler à quelqu'un, puisse éclairer et répondre aux besoins de quelqu'un ce soir. Tu es capable de le faire. Et si tu as appelé ton peuple, c'est parce que tu es la solution à nos questions, la réponse à nos préoccupations. Fais-le et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, veuillons nous asseoir. Bien-aimés, bonsoir. Rendu à l'avant-dernier jour de notre programme, nous allons procéder de la manière suivante sous la direction du Saint-Esprit. Nous avons reçu beaucoup de préoccupations, mais au-delà des préoccupations, nous voulons situer le contexte et donner l'enchaînement dans la compréhension du livre en quelques 2 ou 3 minutes, et ensuite nous allons rentrer dans les différentes questions. Satan ne vaincra pas. De Satan ne vaincra pas à vous êtes bénis. Telle est la section qui nous a concernés. Pourquoi Satan ne vaincra pas? Parce qu'il a déjà été vaincu. Et qu'en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueur. Une fois que nous l'affirmons et que nous croyons, cela est rendu efficace dans notre vie. C'est Satan qui nous fuit, ce n'est plus nous qui fuyons Satan. Nous ne devons pas avoir peur de lui. Alors si Satan ne vaincra pas, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme ou l'élément que Satan utilise de façon récurrente pour nous retenir encore dans l'activité, c'est la chair. Comprendre comment fonctionne la chair, comment comprendre les désirs de la chair, comment Satan manipuler à travers la chair. Il a déjà tout perdu. Mais maintenant, la Bible déclare que ceux qui marchent par l'esprit sont conduits par l'esprit. Et ceux qui marchent par la chair sont conduits par la chair. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la chair. Et si nous ne marchons pas selon la chair, nous sommes donc libres à l'égard de la chair. Vous êtes libres. C'est le thème qui a suivi. Vous êtes libres, pas par vos efforts, pas par un sacrifice que vous avez consenti, pas par un don que vous avez fait, mais par le don précieux du sang de Jésus-Christ qui a ouvert les portes du séjour des morts et a arraché nos vies de la puissance de la mort et nous a transportés dans le royaume de son Père. C'est pourquoi nous sommes libres. Et Romains chapitre 8, verset 1 pouvait dire: si nous sommes libres, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Une fois libre, il ne s'agit pas de continuer à errer. Il faut commencer à se tourner vers celui qui a remporté toutes les victoires. Embrasser la croix. Embrasser la croix avait deux directions. Il fallait d'abord reconnaître l'œuvre de Jésus, saisir l'œuvre de Jésus. Embrasser la croix, Jésus a fait sa part. Maintenant, embrasser la croix signifiait que je dois porter ma croix et le suivre. Je dois renoncer à moi-même. Ça, c'était le second de embrasser la croix. Donc, lorsqu'on a donc embrassé la croix, on ne compte plus sur soi-même. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu imméritée que nous recevons de sa part pour accomplir les œuvres qu'il a prédestinées d'avance pour nous, les bonnes œuvres. Donc, compter sur la grâce de Dieu, c'est savoir dépendre de lui et accepter tout ce qu'il nous offre comme étant une faveur et non un mérite. Lorsqu'on vit dans la grâce, on doit avoir des équipements. Et l'équipement le plus efficace pour vivre dans la grâce nous est donné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui doit nous équiper. Il nous équipe par le baptême du Saint-Esprit. Il nous équipe par les dons spirituels. Il nous équipe par les manifestations de puissance dans notre vie pour rendre ministère conformément au Saint-Esprit. Cet équipement donc nous permet d'attaquer un pan de notre vie que Satan essaye de contrôler, à savoir là où la première bataille est remportée, c'est dans nos pensées. C'est pourquoi il faut renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées signifiait qu'il fallait aligner nos pensées à la parole de Dieu et savoir répondre aux pensées que Satan veut nous imposer. Et remporter la première bataille avec Satan, c'est dans les pensées. Et Romains chapitre 12, versets 2 à 3, pouvait nous dire: nous avons été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et tel un homme est, tel nous sommes. Et que nous sommes la résultante de nos pensées. Sinon, nous sommes la résultante des pensées qui sont en Christ Jésus. Qu'est-ce qui doit nous arriver? Nous sommes bénis. Si nous sommes la résultante des pensées qui sont en Christ Jésus, si nos pensées glorifient Christ, alors vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vient clôturer ce programme pour dire que jouir de votre liberté en Christ, ce n'est plus marcher comme des esclaves. C'est affirmer ce que Dieu a fait et répondre à toutes les difficultés qui peuvent se présenter à ce que Dieu a déjà fait. Vous êtes bénis. Lorsqu'on est béni, on ne marche pas avec certaines mentalités. Lorsqu'on est béni, on déclare tous les jours, sur toute l'œuvre de la création, ce que Jésus a accompli. Voilà, brièvement résumé, les différents chapitres qui nous ont intéressés pendant cette deuxième session. Nous avons reçu beaucoup de questions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Cette deuxième phase se veut participative. Donc, chacun pourrait apporter des éléments de réponse pour des éclaircissements. Toutes les fois, nous prendrons toujours une série pour apporter des éléments de réponse. Bonjour, bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais savoir la parole qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-elle biblique? Si oui, la référence. Je réponds à cette question, ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique. C'est un empereur qui voulait César, si je me souviens bien, qui voulait encourager ses concitoyens au travail. Il voulait encourager ses citoyens au travail. Et il leur dit, avant d'attendre l'aide de Dieu, prenez-vous vous-même en charge. Aidez-vous et Dieu vous viendra davantage en aide. Ce n'est pas biblique. C'est la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne se trouve dans aucun endroit dans la Bible. Donc, si quelqu'un vous le dit, que même la Bible a dit que aide-toi, le ciel t'aidera, dit que pardon, je voudrais la référence. Moi-même, j'ai trop cherché ça. Je n'ai même pas vu. Donc, donne-moi la référence. Ok.
De tous nos cœurs, puisse déclarer soi.
Comment savoir que l'on est baptisé du Saint-Esprit? Différence entre la vérité et la réalité. Comment faire la repentance? Il y a des questions qui relèvent d'une expérience personnelle, mais dont la résultante est unique. Comment savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit? C'est qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit précéder cela? Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut procéder par la nouvelle naissance. D'abord, ce sont les préalables. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné par un homme. C'est Dieu qui vous baptise du Saint-Esprit. Donc, l'expérience ou les manifestations qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, quand vous dites comment savoir que l'on a été baptisé du Saint-Esprit, en réalité, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sincère dans votre marche, dès que vous donnez votre vie à Jésus, Dieu automatiquement vous baptise du Saint-Esprit. Il le fait. Maintenant, il peut vous baptiser du Saint-Esprit et les manifestations ne sont pas immédiates. Et peut-être même 2 ans après, à une rencontre de prière, vous manifestez. Ça ne veut pas dire que c'est en ce temps-là que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Également, vous pouvez être à une rencontre et on prie, vous êtes sincère, en cet instant-là, Dieu vous baptise du Saint-Esprit et les manifestations sont aussi instantanées. Donc, c'est quelque chose qui dépend de Dieu et ça ne s'opère pas de la même manière pour tout le monde. La preuve, chez Corneille, Pierre est encore en train de parler. Le Saint-Esprit l'a devancé. Que ce que tu dis là, moi j'agis. Il baptise les gens. Et Pierre dit, comment allons-nous refuser le Saint-Esprit à ceux qui... à le baptême d'eau à ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu opère selon les dispositions que vous avez. Et la clé, c'est la nouvelle naissance. D'autres peuvent recevoir le baptême d'eau. Et c'est même 10 ans après qu'on a les manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à une conférence comme ça, c'est là où ils parlent en langue. Ou c'est là où ils manifestent le don de guérison. Donc ici, on ne peut pas dire de façon tranché que à tel moment, il y a la souveraineté de Dieu, mais la souveraineté de Dieu intervient à cause de ta disposition. Si tu es né de nouveau, le reste, Dieu se charge de cela. Différence entre la vérité et la réalité. J'avoue que je ne comprends pas. Bon, peut-être quelqu'un va m'aider. Peut-être le jour où on a parlé de cela, je n'étais pas là. J'ai pas compris. Excusez aussi que je ne comprenne pas, non. Mais si quelqu'un peut nous aider, parce qu'il faut que je sois dans le contexte. Et Tata Liliane.
Bien-aimé, bonsoir. Je veux dire juste ce que je sais de la vérité et de la réalité. La réalité, c'est ce que nous vivons. En fait, c'est ce qui se présente à nous tous les jours. La réalité, par exemple, c'est que je vis. La réalité, c'est que le devant, il est en train de parler à tout le monde. La réalité, c'est que le ciel est morne, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de soleil. Ça, c'est la réalité. Nous nous frottons à la réalité tous les jours. Et la réalité peut varier d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Ce que Dieu a dit est vrai. Sa parole est vraie. Jésus est vrai. Le ciel est vrai. Avec les anges et tout ce que ça comporte. Donc, parler de Dieu en termes de réalité, c'est faux. C'est la vérité. Si Dieu a dit tu ne vas pas vivre dans le péché, c'est la vérité. Ce n'est pas la réalité. Voilà la différence que je peux établir.
Quatrième moment. Accepter l'œuvre du Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Dépendre du Saint-Esprit et la manifestation, c'est le témoignage que tu dois rendre. Donc, ce sont les étapes pour la repentance. Ça part d'abord par une prise de conscience que je suis dans le péché et que si je continue dans le péché, je suis perdu. Deuxièmement, Dieu a pourvu pour répondre au problème du péché. Il a donné Jésus-Christ. Tes efforts, tes moyens, les rites, tous tes efforts ne peuvent pas te sauver du péché. Jésus seul peut le faire. Troisièmement, accepter donc Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'accepter signifie que tu reconnais que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est suffisante et l'unique pour effacer ta vie de péché. Quatrième moment, tu lui donnes totalement ta vie et tu dépends du Saint-Esprit. Cinquième moment, tu vis le témoignage des enfants de Dieu. Voilà. Oui. 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 Oui.
Merci. Bon, je crois que c'est établi.
Pasteur, je ne suis pas très d'accord avec vous. Suivez, c'est son doigt maintenant, on va être d'accord. Je suis après, on sera d'accord, n'est-ce pas? Pasteur, je ne suis pas très d'accord avec vous. Pourquoi tout le temps vous méprisez la communauté de Tamja d'être la capitale spirituelle? Pourquoi voulez-vous que la communauté de Tamja ne renouvelle pas sa pensée en Jésus-Christ? On va situer chaque chose dans son contexte. Et si je n'ai pas bien compris, vous allez me pardonner, vous allez peut-être repréciser votre question. Lorsque un orateur a dit que il y a certaines choses qu'on retrouve ici à Tanja, que c'est étonnant. Et on s'appelle la capitale spirituelle. Il s'étonne. Il s'étonne de ce que, comme Paul pouvait s'étonner, que même chez les païens, on ne voit plus ce genre de choses. Il s'étonne tout simplement que, mais comment les gens qui sont à Tamja, les choses qu'on ne devrait même plus en parler chez les païens, on en parle ici. Donc il s'étonne. Il ne dit pas que c'est mauvais d'être la capitale spirituelle. Mais le niveau de spiritualité qui serait attendu si quelqu'un est à la cible et quelqu'un est en terminale. Ce qu'on attend de quelqu'un qui est en terminale, ce n'est pas les choses de la cible. C'est un peu ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord qu'on appelle Tamja capitale spirituelle. C'est comme ça que moi j'ai compris. Donc, le renouvel, pourquoi voulez-vous que la communauté de Tamja ne renouvelle pas sa pensée? Non, vraiment, Dieu attend que chacun de nous à Tamja soit renouvelé. Depuis le jour que on a dit qu'il y a des sorciers, vampires et autres, etc. dans l'église, j'ai peur. Même de mon voisin dans la salle de l'église et tous les fidèles. Comment s'en passer des voisins et des autres qui sont des sorciers et vampires dans le quartier? Bon, je voudrais dire tout simplement à celui qui a peur, ton voisin n'est pas sorcier, ton voisin n'est pas vampire. Et s'il l'était, il y a ce qu'on appelle la contagion spirituelle. La Bible déclare que le méchant s'enfuit sans qu'on le poursuive. Donc toi, tu vas exercer l'autorité sur lui et il va se répandre. Donc, nous avons voulu dire, parce que il y a des gens qui pratiquent le vampirisme et s'y plaisent. En sent même que ça vient de Dieu. Et j'étais allé plus loin jusqu'à dire, et je le redis encore, je n'ai pas changé. Si vous êtes là-dedans, vous ne savez comment sortir, venez me voir, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous allez sortir, on peut sortir de là. C'est une prison, c'est un esclavage. Maintenant, tu me demandes comment vivre avec les vampires et les sorciers au quartier. Confesse Jésus, proclame Jésus, déclare la parole, vis dans la parole, c'est suffisant. Tu n'as pas à faire une pratique particulière. Prie, vis dans la parole, déclare la parole, confesse-la partout où tu pars. Les gens doivent connaître ton identité. Quand ils connaîtront ton identité, quand tu vas arriver, on va dire que le feu est arrivé. Quand on va programmer passer dans les maisons, chez toi, on va esquiver. Ça sera comme dans la sortie du peuple de l'Égypte, où il y a les maisons qu'on n'entrait pas là, non? Voilà. Donc c'est ce que je peux dire pour cette question. Le temps pour moi de souffler un peu, je vais demander à Tata Liliane de répondre à quelques questions. Et lui, oui.
Ok, il y a deux questions qui me sont directement adressées. La première porte sur l'enseignement sur les dons de l'esprit et particulièrement sur le don de la prophétie. La personne veut savoir si ceux qui ont reçu le don de la prophétie font des déclarations spontanées en voyant des personnes à interpeller ou à exhorter. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quand tu as reçu le don de la prophétie, tu dois faire des déclarations spontanées quand le Seigneur te montre un certain nombre de personnes qu'il faut interpeller, il faut les exhorter? Je veux dire que la parole de Dieu dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Une manière de dire, si je suis saisi par l'esprit de Dieu et le Seigneur me montre quelque chose par rapport à quelqu'un, la grâce qu'on a, c'est que le Saint-Esprit est encore là pour te dire s'il faut déclarer ou s'il ne faut pas déclarer. De manière spontanée, ça peut arriver que directement, je sois en train de proclamer la prophétie. Parce que j'ai vu et le Seigneur m'a dit de proclamer, j'ai proclamé. Il peut arriver que le Seigneur nous montre des choses, mais nous empêche. Vous allez sentir que vous voulez proclamer, ça ne sort pas. Et vous sentez l'Esprit de Dieu vous dire de ne pas parler. Par exemple, je vais même dire que le soir du Saint-Esprit ici, il y a eu des prophéties, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas donné par rapport à certaines prophéties. Moi-même, j'ai prophétisé le même soir. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais il y a des détails que je n'ai pas donné pendant que je proclamais la prophétie. Parce que l'Esprit de Dieu m'a empêché de donner certains détails liés à la prophétie qui était obligée de sortir. Elle devait sortir, mais certains détails n'étaient pas utiles pour le peuple de Dieu. Je crois que la personne est rassurée maintenant. Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et parce que nous sommes en communion avec lui, nous savons si nous déclarons instantanément ou si nous ne déclarons pas. On peut même voir des choses pendant qu'on est en train de prier et Dieu nous demande de ne même pas parler. Ça fait que vous priez et le Seigneur peut vous envoyer vers la personne plutôt après. On comprend un peu. Il n'y a que il faut éviter le scandale dans la maison de Dieu. Et il y a aussi que il y a des zèles, certains zèles qu'il ne faut pas refroidir. Le Seigneur peut interpeller le pasteur. Par exemple, dis-moi si tu vas commencer à proclamer que Dieu a dit que le pasteur a. Le pasteur a. On nous a encore parlé du don de sagesse, n'est-ce pas? La sagesse à l'heure-là va te rattraper pour te dire que tu ne parles pas de ceci, ici. Tu gères ça avec le pasteur après. Amen. La deuxième. Ou alors, est-ce que les personnes doivent aller vers eux pour consultation? Maintenant, il a un autre problème. Est-ce qu'on doit aller vers les personnes qui ont le don de prophétie pour les consulter? Vraiment, ça devient la divination. Ça devient le maraboutisme parce que si tu sais que quelqu'un a le don de prophétie et de temps en temps, tu portes tes pieds pour aller vers la personne, dit que vraiment, Dieu a dit quoi concernant ma situation. Tu es en train de consulter les devins. Tu vas forcer les prophéties à naître là où elles n'existaient pas parce que le prophète va se sentir presque obligé de te dire quelque chose par rapport à la situation. Et maintenant, l'ennemi va prendre le dessus et il va se trouver en train de mentir. Parce qu'il faut te satisfaire, on risque de tomber maintenant dans le mensonge. On ne consulte pas les prophètes. Même si quelqu'un a reçu une prophétie te concernant et est venu te dire que ça ne te donne pas l'occasion d'aller vers la personne de temps en temps poser des questions par rapport à ta vie. Si tu veux faire de la personne un partenaire de prière, c'est différent. Dans la mesure où tu voudrais que le Seigneur lui donne des éclaircissements concernant ta vie, c'est différent. Mais dis qu'en cas de situation, tu vas le consulter vous allez entrer dans la divination. Et ça, ce n'est plus Dieu. Ok. On est satisfait. Amen. Le deuxième papier pose la question sur le parler en langue. Quand Jésus parlait en langue, il traduisait encore pour qu'on puisse bien comprendre en français ce qu'il voulait dire. Mais plusieurs aujourd'hui parlent beaucoup en langue, mais personne ne comprend. Pourquoi? Bien, je vais d'abord corriger une erreur. L'erreur que je vais corriger, c'est que Jésus n'avait jamais parlé en langue. Est-ce que la parole de Dieu nous dit que Jésus avait parlé en langue quelque part? Jésus n'avait jamais parlé en langue. La parole de Dieu nous dit que Jésus parlait en parabole. Et la parabole, ce n'est pas parler en langue. Il utilisait des images, il utilisait les proverbes pour enseigner son peuple. Et quand il se retrouvait avec les disciples, il traduisait, enfin, il donnait les explications de la parabole. Maintenant, son problème, c'est pourquoi aussi plusieurs parlent beaucoup en langue, mais personne ne comprend. On a parlé du parler en langue ici l'autre jour. On a dit que dans le parler en langue, il y a trois aspects. Dans le parler en langue, il y a l'aspect prière. Celui qui parle en langue est en train de prier. Et puisqu'il est en train de prier, son voisin n'est pas obligé de comprendre sa prière. Parce qu'il prie à Dieu. Lui-même, il ne comprend pas sa prière. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Il est saisi par l'esprit et il parle comme ça vient. Maintenant, il ne comprend pas. Son voisin ne comprend pas, mais Dieu le comprend. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, le parler en langue a un aspect traduction. Quand il s'agit d'un message qui est adressé à la communauté ou à l'église, le parler en langue se traduit quand ce n'est plus une prière. Quand le Saint-Esprit a saisi quelqu'un, il est en train de parler en langue. C'est une prophétie pour édifier et exhorter l'église. À l'heure là, le Seigneur exige qu'il y ait un traducteur et Dieu lui-même se charge de susciter un traducteur pour que le message soit porté à la connaissance de l'église. Le troisième aspect du parler en langue, c'est que dans une situation précise, le Seigneur te donne la capacité de connaître une langue que tu n'avais jamais entendue pour que tu puisses communiquer son message à ceux qui sont autour de toi. Donc tu te retrouves par exemple à parler l'anglais, pourtant tu ne connais pas l'anglais. Tu te retrouves à parler peut-être le ewondo, pourtant tu ne connaissais pas le ewondo. L'auditoire que tu as devant toi, qui a besoin de connaître la parole de Dieu à l'instant, c'est un auditoire qui est ewondo et le Seigneur te donne le ewondo à l'instant. Tu parles le ewondo pour les amener au Seigneur et quand tu as fini de parler, quand tu as fini d'accomplir cette tâche, tu ne connais plus de quoi il était question. Amen. Je crois que c'est suffisant.
Ok, pour embrayer directement après Lilian, le dernier propos qu'elle a tenu, c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, n'est-ce pas? Dans la chambre haute. C'est ce qu'on appelle habituellement la glossolalie. C'est-à-dire des gens qui parlent en une langue, mais vous les entendez dans votre propre langue. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, mais c'est différent de ce que l'apôtre Paul... de ce dont l'apôtre Paul parle dans Acte, dans 1 Corinthiens 12. C'est complètement différent, n'est-ce pas?
Là où vous lisez dans la Bible, dans l'évangile de Marc, on dit Tabitha Koumi, ce qui signifie lève-toi. C'est une traduction de l'araméen en français. Ce n'est pas que Jésus a parlé en langue. Donc il ne faut pas comprendre ça et dire que Jésus avait parlé en langue. Non. Quand on dit un endroit appelé Hakeldama, c'est-à-dire lieu du crâne, lieu du sang, c'est la traduction. On ne veut pas dire que c'est le parler en langue. Donc quand on dit Rabouni, ça ne veut pas dire que c'est maître. Ça signifie maître. Ça ne veut pas dire qu'on a parlé là-bas en langue. Donc il ne faut pas dire que Jésus avait parlé en langue maintenant.
Ok.
L'autre précision que je veux faire, c'est que c'est donc de parole, prophétie, parole de sagesse. Ça s'exerce dans l'amour. C'est dans l'amour. Parce que ce ne sont pas des choses que Dieu donne pour censurer les gens, parce que tu vas mourir, hier tu as fait ceci, ainsi maintenant tu vas mourir. Ça ne vient pas de Dieu, Dieu est amour. Donc quand Dieu veut nous parler avec tous ces canaux, c'est par amour. Et comme elle a dit, ce n'est pas tout qu'on dit. Donc si tu n'as pas le cœur rempli d'amour, tu peux inventer des choses parce que tu détestes la personne ou bien dire des choses que Dieu n'a pas dit. Donc tous ces dons se pratiquent dans l'amour.
Merci. On continue dans les dons. Comment savoir si Dieu a mis un don en toi? 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7 dit: à chacun le Seigneur a reparti un don pour l'utilité commune. À chacun. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ ont un don. On se comprend? C'est Dieu qui le dit. Tous, chacun d'entre nous, ici, nous avons un don que le Seigneur a mis en nous. Mais il est question maintenant de découvrir quel est ce don qu'il a mis en nous. C'est ça la chose la plus compliquée chez certaines personnes. Découvrir le don que Dieu a mis en eux avant de pouvoir l'exercer. Donc l'assurance qu'on peut avoir, c'est que tous avons reçu le don de Dieu. Et je voudrais préciser bien qu'il y a une différence entre le talent et le don. N'est-ce pas? Le talent, c'est quelque chose de inné, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on fait avec une certaine facilité, mais qui à un certain moment se rejoint aussi avec le don. Parce que le don, c'est quelque chose que le Seigneur nous communique au moment où il nous remplit de son Saint-Esprit. On se comprend? Au moment où il nous remplit de son Saint-Esprit, il nous révèle le don. Et le don, généralement, est lié à un ministère que nous sommes appelés à rendre. Vous allez voir que les dons correspondent très souvent à un ministère qu'on doit rendre dans la maison de Dieu. Et pour identifier son don, c'est la suite de la question, il faut, un, écouter Dieu. Prenez du temps pour écouter Dieu, pour savoir le don qu'il a mis dans votre cœur. Deux, les gens autour de vous peuvent vous aider à découvrir votre don en regardant votre manière de faire, vos aptitudes, votre manière de vivre pour vous aider. Moi, m'a aidé, par exemple, pour que je sache quel était mon ministère, le ministère pastoral. Ceux qui autour de moi m'ont aidé à voir ça. N'est-ce pas? Maintenant, à ce ministère est lié un don spirituel, le don de l'exhortation, par exemple. N'est-ce pas? Maintenant, ceux qui sont autour de vous peuvent donc vous aider à découvrir votre don. Mais maintenant, au fur et à mesure que vous travaillez aussi au sein de l'Église, vous êtes en train de travailler dans plusieurs domaines dans la vie de l'Église, vous découvrez vous-même votre don et votre appel. N'est-ce pas? Il y en a par exemple qui peuvent être à la louange, mais en réalité la louange n'est pas leur appel. Même s'ils savent très bien chanter, ils ne sont pas appelés à la louange. Ils sont appelés à autre chose, peut-être à l'enseignement, n'est-ce pas? Ou à l'évangélisation. Mais maintenant, c'est pendant qu'on est en train de rendre ministère qu'on découvre aussi quel est le don que Dieu a mis en nous, en trois étapes, comme j'ai énuméré. Comment exercer son don? Les personnes pensent que pour exercer son don, il faut se tenir seulement ici devant. Là où je suis, n'est-ce pas? Pour pouvoir exercer le don. Non. Vous n'avez pas besoin forcément d'être à la chair pour exercer votre don. Quand vous avez reçu peut-être le don de prophétie, vous n'avez pas besoin de vous tenir ici pour dire les prophéties. Là où vous êtes, autour de vous, pendant que vous êtes en train de prier, dans votre famille, vous commencez à mettre en exergue ce don-là et cela aide les personnes qui sont autour de vous et même en communauté. C'est partout. Commencez à vous exercer. Mais maintenant, s'il y a des responsabilités que vous devez assumer, par exemple dans l'église, c'est bien de discuter, de rencontrer un pasteur, de discuter avec lui au sujet de votre don. Et ça peut nous donner des orientations sur un endroit où on peut vous mettre pour que vous expérimentiez, ou bien pour que vous exerciez ce don-là. D'accord? Oui. L'autre question? La prière. La relation entre l'homme et son Dieu dépend de la qualité du temps qu'il passe avec lui ou alors devant Dieu. Selon Habacuc 2:20, que toute la terre fasse silence devant l'Éternel. La question, c'est la suivante. Est-ce que un moment de silence dans la présence de Dieu peut-il constituer un temps de prière? Si oui, comment? Généralement, on définit la prière comme étant l'échange entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Entre le chrétien et Dieu. C'est-à-dire, il y a un échange. Je parle, Dieu écoute, et après, j'écoute pendant que Dieu répond. Le moment de silence est la deuxième partie, en fait, de la prière. Parce que très souvent, nous parlons plus que nous n'écoutons. Nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu. Quand Dieu veut même parler, on est toujours en train de parler. On n'a pas le temps d'écouter Dieu. Et il faut donc que nous ayons des moments de silence pour recevoir la réponse de Dieu. Pendant votre moment de silence, le Seigneur peut vous orienter vers un passage. Vous êtes dans un moment de silence, vraiment. Il vous vient à l'esprit tel passage. Vous ouvrez le passage. Et le passage indique d'une manière précise la réponse à votre préoccupation. Dans le moment de silence également, Dieu peut commencer à vous parler en esprit. Certains souvent même sont transportés en esprit. Pendant qu'ils sont dans le silence, dans la présence de Dieu, ils commencent à voir des choses, puis à voir des révélations sur ce nombre de choses qui sont des réponses en fait à leurs préoccupations. Donc le silence, c'est la seconde partie de la prière, du moment de prière. Après le moment où on parle à Dieu, où on s'adresse à Dieu, il y a l'autre moment où on doit écouter Dieu qui nous parle aussi. Et c'est très important d'avoir ce moment de silence-là quand nous entrons dans la présence de Dieu. J'aimerais savoir pourquoi on fait la prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus, en faisant cette prière, apprenait à ses disciples à prier. Mais nous, on connaît déjà prier. Pourquoi la faire encore? En fait, c'est la question de cette personne. Si Jésus était en train d'enseigner à ses disciples à prier en ce moment, au bout du nous connaissons déjà, est-ce qu'on a encore besoin de faire le Notre Père? À quel moment est-ce que nous faisons le Notre Père? À quel moment? À la fin. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce qu'on devait dire, on n'a pas peut-être tout dit ce qu'on voulait dire. Et parce qu'on n'a pas tout dit, on s'inspire de la prière modèle qu'on redit pour résumer en fait un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu dire. Parce que je suis très conscient que si on devait prier par exemple, de prendre les cultes au moment d'intercession pour tous les sujets, on finirait un culte par exemple qui a commencé à 7h, même à 18h, si on doit toucher tous les aspects. Mais parfois donc, on résume dans cette prière modèle-là, n'est-ce pas? Sans que ce ne soit une récitation. N'est-ce pas? Sans que ce ne soit une récitation. Mais on est en train de dire cette prière-là pour dire, Seigneur, même ce que nous n'avons pas pu exprimer maintenant, au travers de la prière que tu nous as enseignée, nous te le demandons. Parce que c'est une prière, quand vous comprenez les différentes étapes de cette prière, elle englobe en fait tout au sujet de notre vie. Absolument tout. Quand vous étudiez en détail cette prière, il y a l'adoration, il y a les demandes, il y a plein de choses dans cette prière-là qui englobe en réalité tous les aspects de notre vie. Ok? Mais on n'est pas obligé de dire toujours le Notre Père à tout moment, n'est-ce pas? On n'est pas obligé. On peut terminer une prière, on dit simplement Amen et puis c'est terminé, sans dire le Notre Père. Donc on n'est pas esclave du Notre Père. Voilà. Je voudrais terminer. Il y a une personne qui a posé la question sur la différence entre l'âme et l'esprit. Je vais avouer que ce sont des questions sur lesquelles est-ce que nous sommes déjà revenus plusieurs fois pendant les enseignements de jeudi. Et je voudrais profiter pour nous encourager à être des chrétiens qui prennent régulièrement part au moment d'édification en communauté. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas seulement des marathonniers, des gens qui profitent des saisons comme celle-ci, ils sont présents. Mais au moment où on va continuer l'édification, ils ne seront pas là. Non. Mais on a abordé cette question. pour dire en fait que l'âme, c'est le siège des émotions. N'est-ce pas? C'est au niveau de l'âme que nous ressentons peut-être la tristesse, la joie et bien d'autres choses. Et l'âme, c'est la partie de notre être qui fait de nous des êtres animés, des êtres vivants. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, on dit qu'il a rendu l'âme. En fait, il a rendu l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, qui est la partie qui nous anime, quitte en fait notre corps. Mais maintenant, l'esprit, c'est le souffle que Dieu a mis en nous. C'est le souffle que Dieu a mis en nous, qu'on appelle encore la roue en hébreu, n'est-ce pas? Le souffle de Dieu en nous. Quand on lit l'histoire de la création de l'homme, s'il faut dire les choses ainsi, quand Dieu a façonné l'homme, il a soufflé, n'est-ce pas, dans ses narines. Le souffle dont il est question, c'est la roue, c'est-à-dire l'esprit. Dieu a mis un esprit en lui, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la vie de l'homme, il y a, quand on parle de bataille, Papa César l'a relevé pendant qu'il intervenait en nous. Il y a la bataille au niveau de la chair, c'est de cet esprit dont il est question. Parce que cet esprit va chercher à s'opposer à l'esprit de Dieu. Et cela crée donc une certaine bataille au-dedans de nous. On se comprend? Mais maintenant, il est question, pendant que nous sommes sous la dépendance de l'esprit de Dieu, de laisser que l'esprit de Dieu domine en fait notre esprit, qui est la chair en d'autres termes. Parce que quand on parle de chair, ce n'est pas le corps physique-ci. Ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit en fait qui gouverne la chair et qui pousse la chair à faire, qui pousse le corps, j'allais dire, à faire des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit. On se comprend? C'est la différence qu'il faut faire en fait entre les deux. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concernait.
Nous avons une dernière série. Pourquoi est-ce que le chrétien reste-t-il encore sous le joug des maladies incurables, cancer, sida, hépatite, fibrome, diabète, malgré le fait qu'il ait tout laissé à la croix? Il y a des gens qui ont, je le comprends, si tu ne crois pas, tout est une question de foi et rien n'est impossible à Dieu. Ce que Jésus a déjà accompli, c'est la vérité. Maintenant, lorsque nous déclarons, qui ici croit qu'on peut guérir de sida? Voilà. Si tu n'y crois pas, prie même 2 ans pour un malade de sida. Et que si le malade lui-même n'y croit même, n'attendez rien. C'est une question de foi. Question de foi. Il n'est pas question de dire bon, allons à l'hôpital régional, cancérologie, tous ceux qui ont le cancer, placez-vous ici. L'œuvre de la croix, c'est accompli. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'entrer dans le tout est accompli de la croix. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il a porté nos infirmités, toutes nos maladies. Il nous a rachetés. Maintenant, je peux ressentir la douleur dans ma chair. Et j'ordonne à ma chair, cancer, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Ton règne est terminé. Jésus a tout accompli. Cette déclaration, par la foi, elle est opérante. Et ça se manifeste. Il y a un témoignage où quelqu'un, après sa guérison d'une telle maladie, a ressenti un peu aller voir le médecin. Le médecin a fait les examens, rien. il rentre, il ressent un peu les douleurs là-bas. Il dit, peut-être l'affaire là est encore revenue. Et il va donc vers le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui dit, dans Hébreu, Abraham n'a pas considéré le fait qu'il était stérile. Mais il s'est attaché à la promesse de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai. C'est la vérité. Ce que Dieu a fait, c'est, je l'accepte par la foi. Je ne considère plus la douleur. Elle peut, je peux ressentir quelques douleurs, mais je ne reste pas focalisé sur la douleur. Or, le problème, c'est que plusieurs personnes veulent être visitées, mais en même temps, elles sont focalisées sur ce qu'elles ressentent et non sur ce que Dieu lui l'a dit. Donc, on ne porte plus de joug. Ceux qui sont en Christ, la Bible dit que votre servitude est terminée. La question qui suit, on dit, bon, vraiment, les questions comme ça, la prochaine fois, il faut dire bien que c'est vous. Quand vous dites on dit, c'est pas trop. On dit qu'Élisée est mort de maladie. De quelle maladie est-il mort? Bon, on va rentrer dans la parole. Dans 2 Rois 13, le verset 14, si tu trouves la maladie là-bas, moi aussi j'accepte. Voici ce que la Bible dit. Élisée était atteint de maladie dont il mourut. Maintenant, à la fin, verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Ça va? Pardon? Bon, je ne sais pas, tu as lu, si dans toute cette section-là, tu vois sa maladie, tu me dis aussi. Donc, il faut toujours rentrer dans la parole. Hein? Il ne faut pas qu'on attrape les choses comme ça. Il faut rentrer dans la parole. La parole n'a pas dit, a dit que Élisée était malade. Point. Qu'il s'agisse de n'importe quelle maladie, ce qui est sûr, Élisée est mort de. Voilà. Bonsoir. Juste pour savoir pourquoi le pasteur dit-il qu'il y a des prostituées dans la maison de Dieu. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé ça raisonnable venant d'un homme de Dieu. Bon, je suis sûr que après la réponse, tu vas trouver que c'est raisonnable. Il faut faire très attention quand un serviteur de Dieu parle. La parole de Dieu a trois orientations lorsqu'elle est relâchée. Première orientation, elle peut être une révélation de ta situation, dont tu n'es même pas conscient de ta situation. Deuxième, ça peut être un jugement de Dieu sur ta situation. Troisième, ça peut être une interpellation. Donc, quand le serviteur de Dieu dit une chose, je ne sais pas comment il a préparé son message avec le Seigneur, ce que le Seigneur lui a dit. Mais je trouve que le Seigneur lui a dit de dire ça. Et si il le dit, alors Dieu sait qui il veut guérir. Si toi tu n'es pas dans le couloir là, bénis Dieu. Si ceux pour qui la parole a été relâchée vont la saisir. C'est comme ça qu'il faut écouter la parole quand les serviteurs de Dieu parlent. Tout ce que Dieu utilise pour parler de sa part, il parle. Même quand on dit parfois pasteur, je vois on dit pasteur, les gens nous regardent. Attention, Dieu peut dire pasteur comme ça, c'est pas nous. C'est vous pasteur. Donc, il ne faut pas voir toujours, on dit ancien. Dans ancien là, tu peux te retrouver là-dedans. La parole a été relâchée, mais c'est ancien qui a été mis devant. Et toi-même, ce que on a dit ancien là, toi-même tu te retrouves là-dedans. Donc c'est la révélation. Dieu révèle quelque chose. Donc, je crois que c'est maintenant raisonnable de dire ça, non? Quand l'Esprit de Dieu veut qu'on dise quelque chose, on doit le dire aussi librement. Il y a... une dernière question. Bon. Dans l'exposé, la sœur témoigne d'un accident de voiture à l'issue duquel le propriétaire chauffeur accidenté a été interpellé par rapport à son orgueil. Comment se prendre à la suite d'une épreuve pour découvrir les motivations y afférent. Je suis. On ne peut pas répondre de façon univoque. Dieu sait choisir chaque circonstance pour nous parler. Si peut-être dans ce cas, il a voulu utiliser son orgueil pour lui parler, c'est un homme de choses. Je ne peux pas dire ici là que bon, voici. Ce que je sais, c'est que la sœur avait voulu nous faire comprendre, c'est que quand tu es accroché à quelque chose, tout cela est parti de la déclaration de ce monsieur. Il se vantait de sa voiture, de l'efficacité, de la stabilité de sa voiture, que sa voiture était une garantie pour sa sécurité. Et Dieu a voulu à travers ce moment lui montrer que ce que tu prends pour garantie là, je peux broyer ça en... et que ta vie même est entre mains. Voilà ce qu'elle a voulu qu'on retienne. Donc c'était le message que la personne découvre après cet accident. Bon, il y a aussi une autre partie qui était bénissante. Tu n'as pas retenu l'autre là. C'est que il était orgueilleux et il ne voulait pas réparer un problème avec un partenaire. Et qu'à l'issue de ça, il a appelé le partenaire, c'est le partenaire qui a pris en charge tous les frais et on lui a fait donner une bonne voiture, n'est-ce pas? Voilà, donc, bref, c'est ce que la sœur avait, j'avais retenu ce jour-là. Bon, on va arrêter là. L'autre, si c'est un sujet, bien vouloir rencontrer le pasteur Raymond ou bien, en fait, l'un des pasteurs ou même des frères enseignants dans la paroisse. Il y en a beaucoup, ils peuvent vous aider. Lorsque j'étudie, je ne comprends pas. Je ne sais pas le pourquoi. Et je prie chaque jour. C'est un problème sérieux. Donc, il y a des enseignants bien vouloir nous rencontrer. Ça ne faisait pas partie. Bon, il y a des personnes qui nous ont aussi envoyé des témoignages, des remerciements et tout, nous ne voulons pas les lire. Ça, c'était le temps pour répondre aux questions. On va se lever pour la prière. Disons merci au Seigneur qui a apporté des éclairages à toutes les zones d'ombre dans notre esprit. Au-delà de ces réponses aux questions, Dieu voudrait que tu t'engages à chercher les réponses dans sa parole. Dis au Seigneur que tu t'engages à sonder les Écritures chaque fois que tu as une préoccupation pour avoir sa réponse. C'est le plus important. Engage-toi à sonder les Écritures
pour chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu au sujet de n'importe quelle préoccupation.
Tu es merveilleux, tu es merveilleux.
Dieu n'est pas limité. Si tu as n'importe quel besoin, il dit, faites-moi connaître les besoins de votre cœur. Et dans sa parole, il a prévu la provision.
Rassuré par le son de ta voix.
Merci Seigneur parce que tu connais les besoins de notre cœur. Merci parce que tu connais aussi nos incertitudes et nos hésitements. Nous te prions. Là où il y avait la confusion, que ton Saint-Esprit, au travers de ta parole, apporte des réponses à nos préoccupations. Là où il y avait des idées préconçues et arrêtées, renverse nos raisonnements et établis ta pensée dans nos cœurs. Là où il y avait une résistance, même sur ce qui est connu, révélé par toi, Seigneur, que cette résistance tombe et que nous fléchissons le genou en ta présence, acceptant ce que tu as dit comme la vérité par la foi. Nous te prions, ô Dieu, pour que tu nous donnes d'être des personnes fiers de jouir de leur liberté en Christ. Cette liberté passe par l'affirmation de notre identité chrétienne et du témoignage que nous devons rendre de toi. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être connectés toujours à toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme Paul nous voulons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es notre force, tu es notre rempart, tu es notre appui. Et par ton Saint-Esprit, nous avons l'assurance que rien de caché ne restera éternellement caché, mais sera révélé sous l'action de ton Esprit. Notre Dieu et notre Père, au moment où nous approchons de la clôture de ce programme, Père, tu connais encore les besoins des cœurs. Tu connais encore les préoccupations des uns et des autres. Je te prie de les visiter. Je te prie de leur être favorable. Que ta grâce surabonde dans notre vie. Et que tu nous accordes, ô Éternel, de vivre par toi et pour toi. Au nom de Jésus-Christ.
De ta voix, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras. Je me blottis dans le creux de tes bras, ô mon Seigneur. Tu es merveilleux.